Vous écoutez Ainsi soit-elle.
Quand j'étais petite fille, on m'avait bien apprise à faire ce qu'on me dit, rien savoir de l'anarchie, savoir rien de politique. Des hommes déshabillés, de drogue qu'on m'avait, d'amour et de tuer. Et si tu me paries les réponses aux grands défis de l'univers.
Cette semaine, Ainsi soit-elle, on parle de grève étudiante. Essentiellement, on parle de féminisme dans le mouvement étudiant. On va commencer ça avec Tiffaine qui va nous parler d'un communiqué de l'Institut Simone de Beauvoir qui parle un peu des impacts justement de la hausse des frais de scolarité sur les femmes. Ensuite, si on a le temps un petit peu, on va parler un retour sur l'atelier de Plan Q qui a eu lieu à l'AGT dans le cadre des mercredis politiques. Et ensuite, on reçoit une étudiante pour nous parler un petit peu du sexisme et dans le mouvement étudiant actuel, donc dans la deuxième moitié de l'émission. Tout ça va être accompagné par mon choix musical. Je vous ai préparé quelque chose d'assez loud, alors préparez vos oreilles. On commence ça tout de suite en musique et je vous présenterai la pièce après.
I can't.
les ondes de CKIA FM à l'émission Ainsi Squat-elle. C'était Deadly Weapons, une chanson du groupe Eyes Set to Kill, qui est un groupe qui est fondé par deux sœurs. Donc voilà, c'est ce qui commençait ma petite sélection musicale de emo core, etc. On enchaîne tout de suite avec une nouvelle de Tiffaine.
Oui, donc comme Evelyne en a parlé tout à l'heure, je vais vous parler un peu d'une déclaration qui a été publiée par l'Institut Simone de Beauvoir, qui est situé à l'Université Concordia à Montréal, donc qui est un petit peu le penchant pour celles et ceux qui connaissent la chaire Claire Bonenfant. Donc c'est comme un centre d'études sur les femmes, le féminisme et compagnie. Et puis, elle publie à l'occasion leur position sur certaines questions sociales. Elles avaient publié une déclaration de ce type-là pendant la commission Bouchard-Taylor, pendant le projet de loi 94 du gouvernement du Québec sur les accommodements raisonnables, etc. Et puis, donc, dernièrement, elles ont publié une déclaration sur la hausse des droits de scolarité au Québec et son impact sur les femmes. Puis c'est intéressant parce qu'on voit que donc leur déclaration porte pas seulement sur des questions dites féminines, là, elles vont plus loin que la violence faite aux femmes et ce genre de problématiques-là pour reprendre différentes problématiques sociales qui peuvent avoir un impact démesuré sur les femmes. Puis c'est le cas de la hausse des frais de scolarité qui est proposée à l'heure actuelle par le gouvernement du Québec. Donc, elles expliquent rapidement comment ces politiques néolibérales-là ont un impact démesuré sur les femmes. Donc, premièrement, elles dénoncent le fait qu'on parte de constats vraiment problématiques, comme l'idée que les étudiants et étudiantes doivent investir dans leur avenir et qu'on remet en question donc l'investissement du gouvernement et de l'État dans les études postsecondaires. Puis, de la même façon qu'on se fait réexpliquer jour après jour comment la hausse affecte plus les étudiants et étudiantes qui sont plus pauvres, puis on le sait, le réinvestissement promis dans les programmes de prêts et bourses parvient jamais à corriger ça, puis on constate une perte donc de l'accessibilité aux études quand il y a des hausses de frais de scolarité. De la même façon, les femmes sont affectées de façon démesurée aussi, puisque encore selon les dernières données qui remontent à 2008, on remarque que les femmes au Québec gagnent en moyenne 71 cents pour chaque dollar gagné par les hommes. Donc c'est quand même une différence qui est assez majeure, puis qui fait que un diplôme qui coûte la même chose pour les hommes et les femmes, ça vaut pas la même chose réellement, puis une dette d'études qui s'équivaut, mettons, de 25 000 $, ben ça va pas avoir le même impact sur un homme ou sur une femme.
Ça va pas être remboursé aussi vite pour une femme que pour un homme, en
fait. Non, c'est ça. Puis on nous offre même une figure qui est assez impressionnante. Semble-t-il qu'en moyenne, là, toute profession confondue, une femme va gagner 863 000 $ de moins qu'un homme au cours de sa vie. Donc ça, c'est un montant, tu sais, qui s'étale sur toute la vie, mais qui montre bien qu'au bout du compte, ben les femmes ayant moins de ressources sont obligées ont un plus gros taux d'effort. Et puis d'ailleurs, on voit que Éric Martin et Maxime Ouellette, qui sont les auteurs d'Université Inc., qui sont cités dans la position de l'Institut Simone de Beauvoir, et il faut remarquer que les familles donc composées d'un homme et une femme, les parents mettent à peu près 10% de leurs revenus pour financer les études au baccalauréat d'un seul enfant, tandis qu'une mère chef de famille monoparentale doit allouer 18%, donc presque un cinquième de son revenu, pour pouvoir supporter un enfant qui est aux études au baccalauréat. Donc, on comprend que ça défavorise les femmes étudiantes, ça défavorise aussi les mères monoparentales, cette augmentation qui est proposée par le gouvernement du Québec. Et puis, donc, quand on dit qu'il faut que les étudiants et étudiantes investissent dans leur avenir, les personnes de l'Institut Simone de Beauvoir disent plutôt que l'État québécois demande aux femmes d'investir dans le maintien des inégalités pour des décennies à venir. Puis qu'elles rejettent cette logique néolibérale et qu'elles réclament un régime qui va assurer aux femmes et aux hommes du Québec un accès égal aux études universitaires dès maintenant. Donc c'est rien de vraiment nouveau, mais c'est juste intéressant de voir qu'il y a un institut universitaire qui se positionne clairement contre la hausse dans une perspective féministe. Elle rappelle que la question du sous-financement des universités, vraiment, c'est une question de priorité parce que il y a plein de façons d'aller chercher les fonds, là. Elles en ont deux, là, par exemple. si on enlève les primes accordées aux dirigeants des sociétés d'État qui, en 2010, ont atteint 105 millions de dollars, ben ça serait déjà une bonne façon d'aller chercher un petit peu d'argent. Pareil pour les redevances des compagnies minières pour utiliser les ressources en eau du Québec qui pourraient, à hauteur de 1 cent le litre d'eau utilisée, ça pourrait monter et rapporter annuellement au Québec 775 millions de dollars. Donc ça, c'est juste que deux exemples de façon d'aller chercher de l'argent des endroits où on prétend qu'on n'a pas on n'a pas d'argent. Et donc, c'est ça, finalement, l'Institut se positionne clairement et puis on fait une sortie de presse là, la semaine dernière ou il y a 2 semaines à ce sujet qui a été quand même bien couverte. Donc, c'était assez, je trouvais ça intéressant. Bref.
On va poursuivre tout de suite en musique, en fait, avant de revenir à parler plus en profondeur du contexte actuel de mobilisation étudiante et de la pertinence accrue du féminisme dans ces moments de lutte. Je vais vous faire découvrir un groupe que j'ai découvert cette semaine et que j'aime beaucoup. Ça s'appelle Made Out of Babies. La chanson qu'on va entendre s'appelle Pew et c'est tiré de leur album paru en 2008 qui s'appelait The Runners.
Have you believe in such things and suffering?
les ondes de CKIA FM, c'était la pièce Headless Hawks de Julie Christmas, qui est la chanteuse du groupe qu'on a écouté juste avant, Made Out of Babies. Elle a sorti un album solo en 2010 qui s'appelle The Bad Wife Master 2.0. Donc, à découvrir Julie Christmas, si vous aimez ce genre de musique agressive, là. Alors, on enchaîne dans notre thème de cette semaine. Grève étudiante, mouvement étudiant, lutte étudiante et féminisme. On reçoit Caroline en entrevue. Peut-être, Marie, tu pourrais introduire la question.
Oui, tout à fait. Ben, bonsoir Caroline, bienvenue, bonsoir. Bienvenue à l'émission Assis Squatel à CKIA. Déjà, j'étais contente de t'inviter. Et puis, on avait parlé ensemble justement de la question du sexisme dans les mouvements étudiants. Et puis, toi, tu m'es venue avec une... pas une anecdote, mais un fait qui s'est passé il y a peu à l'AC, à l'association syndicale...
L'association pour une solidarité syndicale étudiante.
Puis c'est ça, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ce qui s'est passé dernièrement à l'AC?
Oui, en fait, dernièrement à l'AC, en fait, maintenant, on tend à l'appeler la classe pour la coalition large de l'association syndicale, pour la solidarité syndicale étudiante, pardon. Le comité femmes a démissionné en bloc. J'étais pas au congrès du 22 janvier. Par contre, j'ai pu lire tous les courriels qui se sont échangés sur la question par la suite. Il semblerait qu'au congrès du 22 janvier, le congrès de l'AC, une délégation de la FESH, qui est l'Association facultaire des étudiants en sciences humaines de l'UQAM, la délégation de la FESH aurait sévèrement critiqué le comité femmes et puis on aurait en quelque sorte proposé un chapeautement pour parce que en fait ce qu'on reprochait au comité femmes c'est de ne pas avoir rempli ses mandats. De ne pas donner suite au mandat que le Congrès leur donne. Parce que le comité femmes est redevable au Congrès, n'est pas un comité autonome en tant que tel. Par la suite, le 22 janvier toujours, il y a eu un courriel du comité femmes qui a été envoyé à tout le monde. Et une des représentantes de la FESH a répondu dans un courriel intitulé « Explication de la FESH sur le comité femmes ». Dans ce courriel, on explique que, dans le fond, on reconnaissait tous les bons coups du comité femmes. On apportait aussi de bonnes critiques constructives, mais également, on disait qu'il fallait tenir compte des faits et que certains mandats n'avaient pas été complétés ou n'avaient pas été couronnés de succès. Donc, à partir de ce moment-là, s'en est suivie une longue suite de courriels, parfois venant du comité femmes, parfois venant d'ex-membresses du comité femmes. Et il y a également eu un comité qui est venu appuyer le comité femmes. En fait, c'est pas un comité officiel, mais c'est un regroupement qui lutte pour la reconnaissance des diversités et des droits des LGBT. Je m'excuse, j'ai comme perdu mon idée, mais qui sont venus les appuyer en disant, ben si ça n'avait pas été de la présence du comité femmes, nous n'aurions pas pu nous faire reconnaître au sein de l'AC, nous n'aurions pas eu la voix qu'on a eue. N'eût été de leur appui. Puis, en février, le 4 février, il y a eu démission des deux dernières membresses du comité femmes. Parce que dans leur lettre de démission, elles répondent que, certes, elles n'ont pas réussi à compléter tous les mandats qu'on leur avait donnés, mais qu'on oubliait évidemment le travail invisible qui était le réseautage par courriel, le relais d'information dans tous les réseaux féministes, parce que ce qui leur était entre autres reproché aussi, c'était de ne pas avoir participé ou de ne pas avoir réussi à avoir une présence forte de féministes dans les manifestations nationales qu'il y a eu à l'automne dans le déclenchement des mouvements pour la grève générale illimitée. Donc, elle disait oui, sauf... Oui, on n'a pas réussi à avoir un contingent de 400 féministes pour la manif, mais on a envoyé des dizaines, voire des vingtaines ou je ne sais pas combien de courriels. On a réseauté, on a été sur les campus, on a essayé de trouver des gens, mais bon, on n'a pas... Ça n'a pas été un succès.
C'est le propre du travail de mobilisation aussi, que des fois, ça fait sortir les gens, puis d'autres fois, pas.
Exactement. Exactement.
Puis donc, c'est apparemment des critiques vraiment axées sur les résultats,
mm-hmm.
donc sur la finalité des mouvements et pas tout le processus aussi.
Oui.
Puis là, on se retrouve en début de grève avec un regroupement national d'associations étudiantes sans comité femmes.
Exactement. Exactement. Sans comité femmes et surtout avec beaucoup de questions à se poser au niveau des ressources qu'on accorde à ce comité femmes-là. Si elles n'ont pas été capables de compléter certains mandats, selon leur lettre de démission, c'est entre autres parce qu'elles n'ont pas eu d'aide, de pamphlets qu'elles auraient dû produire mais qui n'ont pas été produits parce que personne n'a voulu les aider à les imprimer ou à les monter ou... tous les trucs pour l'infographie, par exemple, ou des trucs comme ça.
Pas d'aide et puis pas de budget aussi, apparemment?
Non.
Pas de budget autonome, en fait.
Elles n'ont aucun budget autonome. Il faut qu'elles justifient préalablement chaque dépense. Et on leur a même demandé de couper leurs dépenses de déplacement. Donc, les déplacements devaient se faire de ce que j'ai compris dans les courriels que j'ai pu lire de façon bénévole.
Mm-hmm. OK.
Bien, on pourrait peut-être réfléchir à tout ça et revenir après une chanson sur les impacts que ça peut avoir sur un mouvement étudiant qui a grandement besoin du féminisme, comme on pourra en discuter. On va donc écouter une pièce d'un groupe que je vous ai déjà fait écouter qui s'appelle Naked Aggression. La pièce s'appelle Plastic World.
I'm
Vous êtes toujours sur les ondes de CKIA FM à l'émission Ainsi Squat-elle. On vient d'entendre Naked Aggression. Ça fait du bien, ça passe dans les oreilles hein, quand même cette musique-là. Merci Evelyne. On continue à discuter de sexisme dans les mouvements étudiants, donc avec notre invitée Caroline et puis donc Tiphaine, Evelyne qui sommes là. C'est ça, c'est quand même quelque chose d'important et de significatif là, cette démission du comité femmes de l'AC. Puis c'est vrai qu'en en discutant hors onde, on se rend bien compte que c'est pas une exception, c'est pas un fait divers et varié. C'est quand même quelque chose qui peut arriver dans beaucoup de milieux. Et puis on n'est pas à l'abri nulle part de ça. Donc c'est vrai que c'est problématique. Est-ce que vous avez votre avis là-dessus, j'imagine, Caroline? Est-ce que tu veux continuer à en parler?
Ben en fait, moi, je pense surtout que c'est un problème d'éducation à la base, parce que souvent les gens ont cette impression que le féminisme, c'est être contre les hommes, et à la base, c'est pas ça. C'est simplement reconnaître que oui, de par la société, de la façon dont elle est construite, il y a du sexisme, il y a du racisme, et simplement essayer de se donner des moyens pour les éviter. C'est, à mon avis, c'est pas seulement en créant un comité femmes, et ça avait été souligné, je tiens à le dire, par exemple, par la délégation de la FESH, là, que ça serait important d'impliquer le féminisme dans toutes les sphères vraiment de l'AC. Par contre, ce qu'une des... une des ex-membresses du comité femmes disait, c'était que, oui, elle aussi, elles espéraient que le féminisme soit une perspective et une technique appliquée et reconnue dans toutes les sphères de l'AC, mais que c'était pas évident. Et puis, surtout en contexte de grève, ça devient de plus en plus difficile. Et quelques-unes des critiques qui ont été adressées par le comité femmes, c'est que souvent, le point femmes était relégué en dernier lieu dans les assemblées, parce que moins important, parce que moins tendance, disons, pour attirer des gens pour les votes de grève. Donc, je crois que c'est, à la base, faut se questionner sur la place qu'on veut mettre, qu'on veut donner au féminisme, et surtout permettre au comité femmes de remplir ses mandats en ayant une bonne place.
Puis là, pendant la grève qui s'amorce, qu'est-ce qu'on peut s'attendre comme, bon, si l'AC a plus de comité femmes, est-ce que dans les associations locales, cette préoccupation-là de continuer de porter le combat de l'égalité homme-femme dans la lutte, malgré la lutte? J'ai entendu, par exemple, Tiphaine parler tout à l'heure de l'appel à la création d'un pink bloc pour les manifestations.
Oui, moi j'ai pas pu en savoir beaucoup plus sur cette initiative là, mais il y a quand même, en tout cas, le Pink Bloc était présent à la manifestation qui a eu lieu jeudi dernier, le 16 février, qui a permis de bloquer la tour de la Bourse à Montréal, si jamais vous en aviez pas entendu parler là. J'espère que vous savez à quoi je fais référence, mais elle et ils étaient là bien enroulés dans des sympathiques paillettes roses et des super costumes, et chantaient des slogans plutôt tordants, genre « T'es beau, t'es chaud, me semble ton casque est trop », pour en nommer un seul que j'ai retenu, qui criait aux policiers en habit anti-émeute.
En anglais, ça donnait « You're sexy, you're cute, take off your suit », j'ai déjà entendu ça.
« Your riot suit
». Ouais, fait que donc c'est ça. Moi j'ai vu quand même quelques appels là, circuler sur Facebook, même si je suis pas vraiment branchée sur les réseaux du mouvement étudiant. Par contre, je pense que c'est important de souligner que particulièrement dans un moment de grève, c'est important d'avoir soit un comité femmes ou minimalement tu sais des positions claires, puis un engagement clair à respecter une lutte contre le sexisme, parce que c'est un moment où la vie en groupe prend de plus en plus de place. Pour beaucoup d'étudiants et étudiantes, être en grève, ça va signifier passer beaucoup de temps avec leurs camarades des assos étudiantes, passer du temps à vivre ensemble dans leurs écoles, ou tu sais, tous ces moments-là où il y a des tâches genre faire de la bouffe puis faire de la vaisselle qui se mettent à se multiplier et qui sont souvent reléguées à une moitié bien précise de des personnes qui sont présentes. Et puis ben il y a aussi juste un dédoublement de tâches à plein d'égards, puis on voit que c'est rarement ben, en tout cas c'est rarement partagé de façon très égalitaire, quoique j'ai été agréablement surprise de voir que la classe jeudi dernier avait une porte-parole qui prenait la parole, parce que généralement il y a quand même un type de porte-parole de l'AC et de ses coalitions élargies, genre les gars à l'air charismatique qui prennent des bonnes photos, tu sais, et qui parlent bien devant un micro et une caméra. Donc j'ai trouvé ça cool que minimalement, ben, en tout cas pour une fois, c'était une porte-parole femme qui était là toute la journée jeudi.
Ben en fait, je voudrais juste rajouter un petit quelque chose concernant le Pink Bloc. Je sais qu'ils sont présents dans plusieurs manifestations. Et puis, à la base, en fait, je sais pas exactement comment ça s'est constitué, le groupe, mais vraiment, c'est pour remettre sur la place publique les luttes pour les droits des femmes, des homosexuels, des personnes généralement oubliées dans les mouvements nationaux d'envergure.
Ben peut-être qu'on peut passer en musique, puis ça va nous donner des idées pour continuer la discussion. On va écouter une pièce du groupe Picture Me Broken, qui est un groupe très très jeune, qui ont eu plein de difficultés dans leur vie, et ça apparaît dans leur emo core. Ça s'appelle Echoes from an Empire.
Yeah.
les ondes de CKIA FM, vous écoutez votre magazine féministe et libertaire favori Ainsi soit-elle. On est en train de parler de sexisme en milieu étudiant, de grève étudiante et de féminisme, de l'association syndicale pour une l'association pour une solidarité syndicale étudiante et sa coalition large. Bref, on s'étend sur plein de sujets, mais ça m'a fait penser tout à l'heure quand Tiffaine a parlé de la porte-parole de la classe qui s'est prononcée jeudi lors du congrès de la classe. Ça m'a fait penser à l'atelier de Plan Q qu'il y avait mercredi passé à l'AJT. C'était un atelier sur l'éducation, la coéducation à propos des sexualités, des identités sexuelles, tout ça. Mais c'était donné par un collectif qui est issu lui aussi du mouvement étudiant, issu lui aussi de l'AC, quelque part. C'est un collectif qui voulait créer des espaces de discussion et de coéducation, justement, à propos de ces questions-là de sexualité, d'identité sexuelle. Et c'est un collectif qui nous ont témoigné des difficultés qu'ils avaient eues à faire ça dans le cadre de l'AC, justement. Donc là, ils sont devenus un collectif plus autonome. Mais au cours de l'atelier, c'est un atelier vraiment de discussion. Je ne reviendrai pas sur tout le contenu, mais on a parlé notamment du fait que les porte-paroles, souvent, ou les gens en situation de pouvoir ou en situation... les gens qui sont dans des postes d'autorité, dans des postes de communication, qui sont des porte-paroles médias, tout ça, ils sont plus sexy que les autres, tu sais. Puis là, on se demandait, genre, si c'était parce que on les mettait dans ces postes-là parce qu'ils avaient du charisme, tu sais, qu'ils passaient bien, tout ça, ou si c'était le fait qu'ils étaient en position de pouvoir comme ça qui les rendait plus attirant ou plus... Parce que c'est drôle parce qu'un des animateurs de l'atelier nous avait raconté qu'en 2005, ils avaient bâti un plan, tu sais, un genre de chart, là, comme dans The L Word, là, avec qui avait couché avec qui pendant la grève, ou qui avait ressenti du désir pour qui pendant la grève. Puis il y avait quand même des gros nœuds, tu sais, des personnes qui étaient dans des positions justement de pouvoir ou d'autorité ou des positions de charisme ou de leadership qui avaient beaucoup plus de monde autour dans leur cercle. Donc, en tout cas, je voulais juste faire cette petite parenthèse-là pour rediriger notre intérêt puis garder l'œil ouvert sur les situations d'inégalité qui peuvent se produire dans un contexte super intense comme une grève étudiante. Contexte où, souvent, les questions, justement, d'égalité homme-femme, comme on disait tout à l'heure, sont reléguées un petit peu... au second plan, et les choses se passent, les dynamiques genrées se produisent et on se fait dire que, bref, on luttera pour l'égalité quand la lutte pour contre la hausse des frais sera terminée.
Ce qui devrait pas tarder d'ailleurs, hein, parce qu'on y croit, ça va, cette grève-là va mener quelque part, mais c'est vrai, je trouve ça vraiment déprimant de voir qu'encore aujourd'hui, ces questions-là sont reléguées à plus tard. Au moment même où on a le plus besoin d'en parler, parce qu'il y a un moment où il y a énormément d'action, tu sais, c'est un moment où il y a justement ces inégalités-là sont exacerbées. Puis je pense que tu en as déjà eu quelques exemples.
Ouais, ben en fait, j'ai remarqué que dans certaines situations, on tend à, puis c'était soulevé aussi dans les lettres de démission, qu'on tend à reléguer au deuxième plan les points concernant le féminisme ou la place des femmes ou l'alternance homme-femme au micro, qui est en fait considéré comme une perte de temps des fois ou comme un processus très lourd qui ralentit la situation, alors que dans les faits, ces processus-là sont mis en place simplement pour encourager la prise de parole des femmes qui... culturellement ou sociétalement ou par plein de préjugés, sont moins portés à se lever pour aller parler au micro. Donc, en fait, je pense, encore une fois, que c'est une question d'éducation. Il faut revenir à la base et expliquer pourquoi ces processus-là ont été mis en place pour en comprendre la pertinence.
Ben ouais, tout à fait. Puis il y a aussi une des idées qui va être ramenée dans ce sens-là en disant, ben là, vous râlez, vous chialez, genre, sur une affaire, alors que c'est pas ça qui est important, là, c'est la grève, c'est qu'il faut qu'on travaille là-dessus. Oui, mais on peut-tu travailler à plusieurs niveaux, tu sais? On peut-tu se dire qu'on va en même temps aller dans ce sens-là, puis en même temps travailler pour la grève, là? Parce que bon, c'est, si on repousse à toujours plus tard l'égalité, ben c'est sûr qu'on n'y arrivera jamais, là.
C'est souvent quelque chose qu'on remarque dans les luttes où des féministes ou des femmes vont mettre beaucoup l'accent justement sur le processus, alors que le mainstream dans l'organisation, là, les sont beaucoup plus axés sur le résultat. Mm-hmm. Donc, encore ici, c'est un autre exemple dans la grève étudiante. N'oubliez pas le processus, chers et chères étudiants, étudiantes.
Puis c'est important aussi, moi, en tout cas, juste pour... clore un peu sur mon expérience de l'assiste en tant que cégepienne, puis je pense que ces inégalités-là se font particulièrement sentir quand les femmes, ils sont non seulement, tu sais, gênées de prendre le micro pour plusieurs raisons que tu as évoquées, mais en plus, souvent, quand on se retrouve entouré de personnes qui se font un plaisir d'aller parler pendant 10 minutes en se présentant comme venant des six-sup, ben, tu sais, quand t'es au cégep dans ta deuxième ou troisième session puis que t'essaies de prendre ta place dans un mouvement de grève, c'est vraiment pas évident. Puis je pense que, tu sais, c'est le genre de choses que le comité femmes aussi à l'AC avait permis de mettre de l'avant, que ces inégalités-là en termes de prise de parole et de prise de l'espace médiatique, ça se vit pas seulement entre les hommes et les femmes. Puis on peut... que ça fait longtemps que je peux aller à un congrès de l'AC, mais il me semble... que je me trompe pas en disant que le mouvement étudiant au Québec, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de visages blancs et très peu de visages d'autres couleurs. Et puis, c'est pas seulement un reflet de la démographie québécoise. C'est aussi que c'est pas nécessairement... on n'a pas réussi encore à laisser la place à tout le monde pour parler.
Ouais. Et pour boucler la boucle, je pense que tu voulais parler aussi, Tiffaine, dans ton communiqué, que dans la sortie de presse de l'Institut Simone de Beauvoir, il y avait cet aspect-là de la diversité tout à l'heure, dont tu ne nous as pas beaucoup parlé, mais le fait que la hausse des droits de scolarité rende plus inaccessibles les études, ça s'applique pas seulement aux femmes, mais ça s'applique aussi à plusieurs autres personnes qui sont en situation de discrimination dans d'autres aspects de leur vie. Et ce que tu avais l'air de dire tout à l'heure, c'est que ce manque de diversité-là futur à cause de la hausse des frais de scolarité, ça nuit à tout le monde parce que tout le monde bénéficierait d'un milieu universitaire, d'un milieu collégial qui est plus diversifié.
Mm-hmm. C'est clair que les personnes, elles parlent en particulier des femmes autochtones qui sont beaucoup moins présentes. T'sais, les femmes de plus de 25 ans, les femmes autochtones ont un taux de diplôme universitaire de seulement 9 % par rapport à 20 % chez les femmes non autochtones. Et puis, donc, encore là, t'sais, non seulement ces femmes-là sont moins présentes, tout comme les femmes qui sont issues de minorités visibles dans le milieu universitaire, mais on peut soupçonner que comme elles ont aussi un plus haut taux d'effort pour pouvoir payer leurs études universitaires, elles sont aussi, pour ces raisons-là économiques, moins présentes dans le milieu étudiant. Puis ça, c'est vraiment une perte pour tout le monde.
Ouais. Puis on pense aussi à tous les étudiants étrangers. Enfin, moi, j'y pense beaucoup. Tous ceux, en tout cas, dont le gouvernement n'a pas fait d'accord avec le Québec pour que... En tout cas, je pense aux Français, par exemple, eux, ils ont un accord. Mais tous les autres étudiants étrangers qui payent en général 4 à 5 fois plus cher de frais de scolarité et qui, finalement, sont quasiment jamais représentés dans les assos étudiants. On sait que l'année dernière, il y avait... une étudiante justement qui a voulu s'intéresser à ça, à faire cette recherche-là justement, à essayer de mobiliser des étudiants étrangers, mais finalement en se rendant compte que déjà on voulait pas lui donner, que déjà à l'université on voulait pas lui donner les informations, tu sais, sur rien qu'au niveau statistique, et qu'en plus, je veux dire, c'est assez facile d'être fiché quand t'es étranger et militant, et donc si tu veux vivre et continuer à vivre ici au Canada, ben, dis-toi que tes papiers d'immigration vont être plus difficiles à obtenir ou des choses comme ça. Donc il y a vraiment une pression qui se joue aussi dans les revendications en fait que peuvent faire les étudiants étrangers.
C'est intéressant que tu parles des étudiants étrangers parce que justement dans la lettre envoyée par le comité femmes qui répondait au courriel explication de la fiche sur le comité femmes, elle disait entre autres que c'était pas dans leur mandat, mais une de leurs très grandes réalisations dont elles étaient fières, c'est d'avoir permis justement par le réseautage qui est un petit peu invisible et fait par la bande un peu, un réseautage de tous les étudiants étrangers et qu'on serait né une certaine association entre les étudiants et étudiantes qui venaient de d'autres universités dans le monde et qui se regroupaient afin de parler de leur situation et de leur sous-représentation et du fait qu'on n'en tenait pas compte de leur situation dans les mouvements de grève.
Mm-mm. Ben c'est super intéressant. Puis avant de passer en musique, ça me donnait envie de tout de suite vous plugger la conférence de Valérie Laflamme sur l'intersectionnalité qui va avoir lieu mercredi le 28 février dans le cadre des mercredis politiques de l'AJT. C'est à 19h à l'AJT au 251 rue Dorchester. Puis si je le plug tout de suite, c'est à cause qu'on vient juste de parler justement des intersections entre différentes formes d'oppression. Donc, être une femme, être pauvre, être étudiant, être issu d'une minorité visible, être autochtone, venir d'un autre pays. Donc, tout ça, le féminisme s'intéresse à ces questions-là et ça va être discuté par Valérie Laflamme le 28 février à l'AJT à 19h. Est-ce qu'on continue le calendrier ou vous voulez écouter une petite chanson, mesdames?
On peut y aller quand même en musique. On a envie d'entendre plus de emo core.
Oui, mais malheureusement, la dernière chanson que j'ai préparée pour vous est un peu plus relaxe. C'est une chanson de l'artiste solo KMVP que je vous avais fait découvrir aussi, que j'ai découvert ici à l'AJT. C'est une fille de Vancouver et sa chanson s'appelle « Nobody likes sexist movies ».
C'est bien vrai.
Why do all the girls and the warriors have to entice the boys upstairs? Have to entice the boys upstairs before they pull the knives. If I was a girl in the warriors, I would have cut them in the street. I would have cut them in the street and watched and watched and watched and watched the bastards bleed. And of course, you don't even notice, 'cause you grew up watching the warriors. And this thing is so deep inside of us that it takes some very bizarre form. Why are all the girls in Thrasher either virginal or sluts? They all hate each other's guts and watch and watch and watch and watch the boys have fun. If I was a girl in Thrasher, I'd start a radical girl gang, and we'd stop feathering our bangs and skate and skate and skate and build a wicked half pipe. And of course, you don't even notice, but it's poisoning your brains. You deny what's totally obvious, then rewind and watch that shit again. And who says Ally Sheedy needed a makeover to get herself a lover? Who needs those anyway? When I was Ally Sheedy and I got myself a boyfriend, well, all the time I spent with him was time I threw away. And of course, you don't even notice, but I see it everywhere. And my heart curls up and grows cold as the snowflakes that fell from her hair.
Vous êtes toujours à l'écoute d'Insiscoitel sur les ondes de CKIA FM 88,3 et c'est déjà le moment du calendrier militant. Alors, ce qu'on vous propose cette semaine, à partir du 22, donc ce mercredi, jusqu'à 17h, heure de l'Est. Et si je ne m'abuse, ça veut dire 16h notre heure, mais là, je parierais pas là-dessus. Wow. Et jusqu'à 7h le lendemain, c'est le marathon des sans-abri à la radio. Et c'est diffusé sur de nombreuses stations de radio, des dizaines de stations de radio à travers le Canada, dans toutes les provinces, si je me trompe pas. Par contre, il y a pas de station qui le diffuse à Québec. Il y en a plusieurs à Montréal. Mais ça va être diffusé sur le web aussi. Entre autres, à Montréal, c'est présent. Vous pouvez en apprendre plus sur le site web de CKUT, qui va diffuser le marathon des sans-abri. Donc, c'est plusieurs heures de radio sur différents thèmes qui touchent à la problématique de l'itinérance. Donc, il y a des thèmes de... C'est des blocs d'une heure avec des thèmes. Donc, il y en a sur la décolonisation. voyons, j'ai tombé de la misère. Décolonisation. les personnes autochtones et le logement, le genre, le logement et l'itinérance. Donc, il va y avoir de nombreux thèmes super intéressants comme ça, l'embourgeoisement. Et ça va être donc diffusé en ligne et sur différentes stations de radio. Donc, si vous êtes ailleurs au Canada et vous nous écoutez à Ainsi Squat Tel, vérifiez, c'est peut-être diffusé dans votre ville. Ensuite, comme on parlait du mouvement étudiant, vous devez savoir qu'il y a plusieurs manifs qui se préparent cette semaine. Il y en a plusieurs qui sont de plus ou moins grande envergure. La semaine, le 23, il va y avoir une grosse manifestation à Montréal, manifestation nationale qui a été appelée par la classe, la coalition large de la C. Et le 1er mars, donc la classe va être à Québec pour une grosse manif qui s'annonce assez majeure avec un très long trajet, si j'en crois les rumeurs. Et il va y avoir, les associations vont être présentes, mais aussi il va y avoir une délégation des groupes membres de la coalition opposée à la tarification et à la privatisation des services publics. Au Québec, on aime ça, les noms longs, qui essaient d'expliquer un peu trop ce que le groupe fait. Et donc, pour les personnes qui ont une mobilité un peu plus réduite que la moyenne des étudiants et étudiantes, il va y avoir un deuxième départ qui va se faire à partir du centre Lucien Borne. Et l'heure reste à confirmer parce que l'heure de la manif n'est pas encore annoncée, mais il y aura, si vous voulez vous joindre à une délégation des groupes communautaires, il y aura un point de rendez-vous au centre Lucien Borne. Et puis, si je ne m'abuse, il y a aussi
une activité, oui, juste après le 2 mars, en fait, qui va se passer à la JT, puisqu'on aime ça, les soirées dansantes à la JT. C'est, le 2 mars, c'est le collectif Aphrodisique qui organise une soirée avec Penaroua. Donc, vous avez peut-être déjà croisé à droite à gauche un groupe de maracatu. Et ensuite, il va y avoir une soirée musicale et dansante jusqu'à pas d'heure. Donc, le vendredi 2 mars, on vous invite à venir vous défouler après la manif. Le lendemain, du coup. Et on vous remercie d'être venue. Merci Caroline d'être venue à l'émission.
Merci de l'invitation.
Ça fait plaisir. Et puis, on vous laisse avec plein de belles intentions pour la grève étudiante, pour les revendications diverses et variées. Merci Tiffaine, merci Evelyne. Et on part en musique avec Miss Kittin, Troisième Sexe.
Dans la rue, détenue charmante, maquillée comme mon fiancé, garçon, fille, l'allure stupéfiante, habillée comme ma fiancée, cheveux blonds colorés, toute nue dans une boîte en fer. Il est belle, il est beau décrier, l'outragé, mais j'en ai rien à faire, j'ai pas envie de la voir nue, j'ai pas envie de le voir nu. Et j'aime cette fille aux cheveux longs et ce garçon qui pourrait dire non.
Petite fille.